Bonsoir à tous, vous êtes sur Caladma Radio, c'est Superflu, votre émission hebdomadaire, tu n'as pas de micro, je t'ai prévenu avant.
Bi-hebdomadaire,
bah oui, parce qu'il y a une rediffusion une semaine sur deux, et c'est la numéro 10 ce soir. Attention, on est des anciens, gare à toi Michel Drucker, on arrive à grands pas, à petits pas, à pas de loup. Ah, pas de taille,
non,
ah, pas de
réseau. Arrête-toi, c'est plus possible.
Stop. De quoi?
Stop.
Putain, Caps est là, bonsoir. Caps. Et voilà.
Ouais, bon, bah, moi, ce soir, je vais pas vous parler du barrage Ligue 1, Ligue 2 qui opposait Nice à Saint-Étienne, parce que mon Dieu, mais quelle purge! C'était un enfer, un vieux 0-0 des familles avec zéro tir cadré. Ça nous rappelle la Ligue 1 que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Ligue 2 pour Auxerre.
Non, parce que Auxerre, ils sont maintenus.
Ah, oui, c'est vrai,
en fin d'émission.
Hein? Oui.
On en reparle dans un an.
Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu es capable de l'avoir vu en plus ce match de barrage?
Non, je ne l'ai pas regardé, mais je compte bien regarder le match retour vendredi.
Pourquoi tu t'en fiches ça?
J'aime me faire du mal.
C'est ton coming out SM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, je ne vous parlerai pas de mon running gag Dimitri Medvedev que j'ai failli mettre en loser du jour parce qu'il s'est tout simplement fait sortir au premier tour de Roland-Garros par le 97e joueur mondial alors qu'il était tête de série numéro 6. Bidon quoi.
C'est ton petit chouchou quand même de la loose.
Ah non mais il me fait rire.
Ouais.
Et toi tu nous parleras pas de quoi aujourd'hui?
Eh ben je ne vous parlerai pas des NNC Games, les jeux des dopés, donc des pseudo-jeux avec des sportifs chargés à bloc, et pour le coup ils sont réellement chargés à bloc de dop bien sûr, et qui battent des records et se font un paquet d'oseilles ridicule.
Voilà, bah, non parce que pour le coup le meilleur c'est le meilleur.
On n'en parlera pas. le sommaire.
Et ben aujourd'hui, tu m'as lancé un jingle ou pas?
Non, le sommaire.
Je croyais qu'il y avait un jingle. Bon, bref.
Pas au sommaire.
T'es puni.
Et ben j'en veux un. Merci. Aujourd'hui, on va débattre du meilleur numéro 10 de l'équipe de France. Mais pensez pas à Zizou ou Platini, ce sera du rugby. Donc on va se demander qui de Michalak ou de Thomas Ramos est le meilleur buteur de l'équipe de France de rugby. On va aussi se demander si la tradition c'est bien, mais la modernité c'est mieux. Ensuite, on vous parlera des Knicks qui sont en finale pour la première fois depuis 99.
Ouais, faut qu'on en parle de ça. Hein.
On va bien en parler.
Ouais, non, mais c'est évident qu'ils iront en finale de toute façon.
Ouais, écoute-le.
Voilà.
Je les ai encouragés depuis la première heure.
Exactement.
Ensuite, on va modifier un peu notre chouchou puisque on va choisir notre chouchou pour la loose de la Coupe du Monde de foot, puisque ça y est, on commence à voir un peu toutes les listes et on va vous expliquer qui est-ce qu'on a envie de voir être ridiculisé et pourquoi. Et pour finir, bien évidemment, notre loser du moment.
Voilà, on passe du coup au GOAT tout de suite.
Et pour le GOAT, on a choisi de parler rugby. Donc, on va opposer deux buteurs. Et oui, on parle de rugby et pas de foot ce soir. Avec Thomas Ramos vs Frédéric Michalak. Qui est le GOAT?
C'est ce que j'allais dire. On ne parle pas de Yaya Sanogo sur Caps.
Non, il était incroyable. Laisse-le tranquille.
Donc, je suis sûr que aussi bien Thomas Ramos que Michalak ont un meilleur jeu au pied que Yaya Sanogo.
Il a un très bon jeu de tête.
Donc rugby, donc France quand même, on est beaucoup là-dessus en ce moment. Donc Michalak vs Ramos. Donc là on va parler en effet de buteur plus qu'autre chose, mais en même temps on peut aussi parler de ce qu'on aime bien chez l'un chez l'autre. Donc rapidement un petit tour de palmarès mais léger parce que c'est pas trop ça qui nous intéresse ce soir. Donc Michalak Frédéric de son prénom, donc 77 sélections, 436 points. Il a été star du rugby à seulement 18 ans. Donc il a explosé assez vite au stade toulousain. Il a été appelé rapidement en équipe de France d'ailleurs dès ses 18-19 ans. Et il a été meilleur buteur en 2015 de l'équipe de France. Mais un certain Thomas Ramos est passé par là derrière. Il est à 52 sélections parce qu'il est toujours en cours de carrière. Et il en est à 563 points. Donc c'est le meilleur marqueur depuis les Six Nations 2025. Et en plus de ça, c'est le meilleur marqueur des stades toulousains. Parce que les deux ont débuté, c'est leur point commun, au stade toulousain. Tous les deux sont toulousains. Voilà. Si on veut commencer là-dessus.
Alors, les gars, levez la main. Non, c'est pas très radiophonique.
Non.
Frédéric Michalak. Qui soutient Frédéric Michalak?
Ah bah moi.
Toi?
Mais pour moi, il n'y a pas photo. Michalak Prime, mais il n'y a pas mieux. Mais limite, il s'assoit à la table de Wilkinson et Dan Carter. Alors bien évidemment, je parle du Michalak Prime parce qu'après, ça a été plus compliqué. Il a même arrêté de buter parce que, en fait, la finale de la Coupe du Monde en 2012, je crois, si je ne m'abuse, en Nouvelle-Zélande, la finale, ça se passe super mal, alors que pourtant, il fait une Coupe du Monde, il est à 100% quasiment, enfin 100% ou presque de réussite jusqu'en finale. C'est incroyable. La planète rugby explose, enfin le cerveau de la planète rugby explose parce que ce que fait ce gars-là, en plus c'est un gamin à l'époque, est incroyable. Il sortait de nulle part, on savait pas, on savait pas qui c'était. Incroyable. Et là, il nous sort une finale catastrophique. Dans des conditions dantesques, c'est vrai, avec un arbitrage, on pourra en reparler 20 ans après, ni fait ni à fin, plus de 10 ans après, ni fait ni à faire, mais il fait une Coupe du Monde de maboule.
Oui, mais... Non, mais Thomas Ramos, alors je répète, ils ont le même début de carrière, donc tous les deux très jeunes au Stade Toulousain, très vite titulaire à 18 ans tous les deux. Ramos a attendu un petit peu plus de temps pour entrer en équipe de France, mais derrière, par contre... Thomas Ramos, il fait partie de cette génération de l'équipe de France qui marque, qui gagne, et enfin cette équipe qu'on va se rappeler, et il fait partie de ces pionniers avec Antoine Dupont, si ça te parle, Caps, peut-être.
Un petit peu.
Voilà. Et en fait, malgré tout, Ramos, on peut demander à Astérix, c'est l'assurance tout risque à chaque fois. Enfin, c'est. Il tape, on sait que ça va marquer. De n'importe où il est, il est là, il tape, et puis.
Sauf au moment où il faut que ça passe.
Bah, la seule fois où je l'ai vu rater, c'est quand il s'est fait contrer de manière illégale par les Africains du Sud.
Alors, de façon tout à fait légale. Discutable autant que tu veux, mais c'est tout à fait légal. Et pour le coup, dans un moment où c'était crucial, Thomas Ramos, il a foiré.
Eh ben, il a foiré parce qu'il s'est fait illégalement.
Parce qu'il a mis 8 ans pour aller taper un coup de pied.
Alors, moi, je suis l'arbitre. Là-dedans.
Ah oui, t'es l'arbitre.
Ouais, moi, je suis l'arbitre. Ouais. Donc, j'ai une question. Je vais vous demander des arguments. Est-ce qu'on peut comparer...
Tu les comprendras.
Ouais, peut-être. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir que ça soit facile. Il va falloir que ce soit facile. Hein. Mais est-ce que les deux périodes sont comparables au niveau... Alors, je prends l'équipe de France, mettons. Est-ce qu'on avait le même niveau qu'on a actuellement avec l'équipe, avec Thomas Ramos, qu'à l'époque avec Michalak? Est-ce qu'on a exactement le même niveau d'équipe? Parce qu'il me semble que maintenant on est quand même très très bon. Je me dis, est-ce qu'on avait le même niveau à l'époque?
Bah déjà, il faut savoir que Michalak, il a été en deux temps en équipe de France. Il a été jeune Michalak, équipe de France, et après il est revenu. Donc c'était
il y a une. Puis il a fait une pige en Afrique du Sud, donc pendant cette période-là, il n'était plus en équipe
Afrique
de France.
Afrique du Sud, au Sharks, voilà. Et après il est revenu en France, il a fini au Loup d'ailleurs. Et voilà, donc pour Michalak. Mais Ramos, je sais pas s'il a fait partie de cette équipe de France qui a été moyenne pendant un petit temps, mais en tout cas, il n'y a pas grand chose à redire sur lui, sur sa carrière en équipe de France, et d'ailleurs sa carrière tout court, parce que les Toulousains, je sais pas si c'est lui qui fait ça, mais on l'a dit la semaine dernière,
Il y a une équipe de Maboule.
Il y a une équipe de Maboule, du fait aussi de joueurs comme lui et comme Antoine Dupont, parce qu'ils se suivent un peu de partout.
Et Ntamak, et bon, bref.
Voilà, arbitre, une autre question.
Ah, une autre question.
Ah, tu t'es embarqué.
Je me suis embarqué. Ouais, je me suis embarqué là-dedans. Et pareil, même question pour le Stade Toulousain, parce que les deux ont débuté. Alors, quand on voit le nombre de points qu'a marqué Ramos, en tout cas, ils annoncent combien? 189 matchs, 2218 points. Ce qui me paraît monstrueux. Quand on compare à Michalak, 134 matchs et 608 points. Est-ce que pareil, c'est l'équipe qui avait une hégémonie à l'époque, enfin maintenant et pas à l'époque?
Alors justement, Toulouse...
Ça me permet de comparer les stats, tout simplement.
L'époque Toulouse-Michalak, c'est une époque où le rugby français avait moins de moyens que le rugby anglais. Donc, et d'hémisphère sud. Donc t'avais un peu plus de mal à attirer des joueurs de l'hémisphère sud et du championnat anglais, irlandais et compagnie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que le top 14 est justement l'un des championnats les plus riches du monde. Donc, c'était plus compliqué pour Michalak de briller au niveau européen, international, avec le Stade Toulousain. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas débat, de toute façon.
Ce que tu es en train de me dire là, c'est que Michalak a plus de mérite.
Complètement, mais c'est pour ça que je défends Michalak depuis le début. Michalak, effectivement, Thomas Ramos, c'est un truc, c'est indiscutable. La faute est à 50 mètres, il est capable de la mettre. Là où Michalak, sur des très très longues distances comme Ramos, c'est plus compliqué. Par contre, il y avait un pourcentage de réussite chez Michalak qui était délirant. Mais vraiment, mais c'était inouï.
Ouais, mais ça reste le même argument sur Ramos, justement. Et en plus, lui, en plus d'être très proche des 100%, de la perfection sur ses quand il tape, bah, la distance ne lui fait pas peur. Donc, ça reste impressionnant. Il est toujours en cours, donc c'est toujours la même chose. Je pense qu'on parlera de lui post-carrière.
Ah oui, évidemment.
Mais
c'est comme à chaque fois qu'on débat sur qui est le meilleur des deux, les deux qu'on prend, ce sont des monstres.
Voilà. Caps, l'arbitrage. On va terminer là-dessus.
Et je vais mettre Michalak quand même. Parce que c'est, alors, mon parti pris était un peu biaisé du début, c'est-à-dire j'avais quand même certains souvenirs avec Michalak en équipe de France.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y avait l'affect qui prenait un peu là-dessus.
Et puis il était capable d'inventer des trucs avec la balle dans les mains.
C'est incroyable.
Autant avec Michalak. Avec les pieds, ça se discute, mais avec les mains, Michalak, il était au-dessus.
Ouais, mais avec le Pierre Amos, au niveau des passes, c'est assez incroyable.
Oui, mais bien sûr.
À chaque fois, au millimètre près, ce qu'il veut. Donc
après, je précise.
Louis Diane Barry, c'est pourquoi il m'a mis
après,
autant.
Après, moi, je précise, c'est bien le Michalak Prime, parce que Michalak, il a une, pour le coup, il a une carrière qui est en montagne russe.
C'est ça.
Là où Ramos est beaucoup plus régulier. Mais Michalak Prime, pour moi, il est à la table des meilleurs de l'histoire de ce jeu.
Voilà.
On termine là-dessus, alors.
Et voilà, on va faire une première pause musicale que je vais annoncer, parce que ce soir, c'est Simon Jamiou, alias Simon à la radio, qui nous propose son titre. Donc Little Hornet, et on revient après.
Ma radio.
Mmh.
Et voilà, c'était notre petit Simon que vous pouvez retrouver sur le premier podcast de Superflu, sur Spotify ou sur le site de Caladma Radio. Sur Spotify, vous nous trouvez à Superflu Caladma Radio. Et il était là pour la première.
Et pour sa musique, c'est Simon Jamillou sur Bandcamp et sur YouTube.
Voilà, et c'est un petit gars de Villefranche. c'est l'heure du débat. Le gros débat. La tradition, c'est bien, mais est-ce que la modernité, c'est mieux ? Est-ce qu'on peut sacrifier la tradition sur l'ambition future ? Hein ? Qu'est-ce qu'on en dit ?
Ouais, sur ce que ça...
En fait, j'en ai marre de voir, moi, personnellement, voilà. Des équipes sacrifier les maillots, sacrifier les couleurs, sacrifier les logos, pour se dire, bah, on va vendre plus comme ça. Alors, vendre, c'est bien, hein. Mais ne pas respecter le futur... Voilà quoi.
Ouais, parce que Cap, c'était
hier. Non, bah je suis. C'est vrai que je suis un peu Alex là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir modifier forcément les couleurs. Enfin, on se souvient des comment dire des maillots, certains maillots de l'OL. Hein, si je prends l'équipe par exemple de foot la plus proche de chez nous, je sais pas si vous vous souvenez ce deuxième ou troisième maillot la saison dernière. On aurait dit un cirque.
Ouais, c'est il y a 2-3 ans.
Ouais. Oh là là, cet enfer. Mais pourquoi tout simplement. Hein, je veux dire ça.
Pour pas le vendre en plus, parce qu'il s'est pas vendu tellement il est moche.
Bah non, je veux dire, quel est l'intérêt en tout cas de ça? Je trouve que pour moi, ça reste quand même l'emblème de ton club, ça reste beaucoup de choses. Même ils s'amusent là à changer tous les logos. J'ai vu que celui du FC Nantes avait changé il y a peu, il y avait d'autres logos, il y a celui de Marseille aussi.
Celui de la Juve, on en parle.
Voilà, j'allais y venir, moi, grand fan de la Juve, quand j'ai vu changer, moi je sais que j'ai aimé la Juve enfant. En grande partie avec le logo, parce qu'il y a ce côté blanc et noir avec ses dessins qu'il y avait dessus. Je trouvais ça, voilà, c'est ça qui m'avait fait un petit peu rêver. En plus de Del Piero, etc. Nedved, David, etc. Mais voilà, et là, ce changement de cette espèce de gros J noir là, crado, voilà quoi. Enfin, pourquoi ? Enfin, oui, c'est ça la question en fait. Pourquoi faire du coup ? Pourquoi aller changer ? Pourquoi faire
Je sais pas, pour gagner plus de fric au hasard.
Non, donc c'est un logo moche.
Parce qu'on ouais. reste uniquement dans cette optique-là, juste sur la partie marketing, dirons-nous. Ou est-ce qu'on va plus loin sur les parce que pour le coup, si la modernité sur les systèmes d'entraînement, sur les systèmes de recrutement, etc. On peut se dire que ça peut avoir un peu de bien, mine de rien. Si on regarde comment certaines équipes fonctionnent, les entraînements, les joueurs ont jamais été aussi dans tout sport confondu, hein, ont jamais été aussi performants que maintenant. Je veux dire, c'est grâce à la modernité. On a aussi des petites équipes qui arrivent à recruter et faire des bons championnats parce que justement on marche avec la data et donc du coup on a d'autres systèmes de recrutement, on n'est pas obligé d'aller chercher des joueurs à plein de millions, à millions et millions et faire des coups encore un peu malins, des choses qu'on avait eu du mal à faire ces dernières années. Donc ça peut être intéressant aussi de ce côté-là.
Ouais, mais quand tu touches aux couleurs, tu viens quand même toucher à des habitudes de personnes, enfin des supporters globalement. Moi, je pense par exemple pour aller sur le basket, l'ASVEL historiquement, ils étaient verts.
Oui.
Et voilà, Tony Parker est arrivé, il les a mis en noir et blanc comme les Spurs. Bah, ça fait un peu grincer. Enfin, c'est passé facile, mais
bon, pas au début. Ouais, quoi. Ouais, bah, on s'y fait, mais. Au début, on loue, quoi. Non, moi, je.
Ah, ouais.
Moi, ça me fait mal. Je suis désolé. Oui, le nouveau logo de Liverpool et de Manchester United, ils sont sympas. Oui, le maillot de l'ASVEL, il défend. Mais c'est pour moi, t'as bafoué ta tradition, t'as bafoué ton histoire. Tu te respectes pas toi-même. Tout ça sur l'autel du sacro-saint de l'art, quoi. Et au bout d'un moment, stop, faut arrêter de déconner. On est sur des institutions. Et j'insiste sur le mot institution, des clubs comme Liverpool, la Juve, l'ASVEL. On est sur des institutions, il y a des histoires à respecter. Nous, on n'est que de passage, supporters inclus, hein, on n'est que de passage. Donc au bout d'un moment, il faut respecter ces trucs-là. Parce que sinon, après, on part sur le système de franchise à l'américaine où un jour, tu es là, le lendemain, tu es ailleurs parce qu'il y a plus de business à faire. Et au final, tout le monde est perdant. Sauf ceux qui s'en mettent plein les fouilles.
Ouais, après, on va y revenir après, hein, pour rester sur la NBA, mais c'est vrai qu'il y a trois grosses franchises que j'ai en tête qui sont historiques et qui n'ont jamais rien changé, et c'est les seules de toute la NBA, c'est les Knicks, les Celtics et les Lakers.
On ne parle pas des Knicks.
Et qui, on y arrive,
t'inquiète pas.
À grands pas. Pas de taille. Oh non, faut calme-toi. Okay. Mais voilà, tout ça pour dire. J'avais un autre point. Tu es un petit peu allé en parlant du recrutement et des entraînements. Mais moi, je voulais aller plus globalement sur le jeu et l'identité du jeu. Avec comme exemple, en restant dans le foot, pour que ça parle à tout le monde, le Joga Bonito, qu'on parlait du Brésil. Aujourd'hui, ça n'existe plus, soyons clairs. Ou le Tiki-Taka, c'est comment ça s'appelait ?
Le Tiki-Taka du Barça. Ouais.
Voilà, du Barça. Il y avait des identités de jeu qui faisaient rêver les gens.
Moins en moins.
Et aujourd'hui,
D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à la CAN. C'est l'une des CAN les plus européanisées, parce que le style de jeu n'avait quasiment plus rien d'africain.
Oui, le jeu africain,
je parle de la CAN qui s'est finie sur un tapis vert, d'ailleurs, on n'en parlera pas. De plus en plus, on a des jeux qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus d'intensité, de physique, d'athlétisme, de moins en moins de tactique, des joueurs stéréotypés. On perd un peu l'identité de jeu de certaines nations, de certaines équipes, de certaines. Après, c'est un peu le sens du jeu. Tu joues pour gagner, donc forcément, si tu vois qu'il y a une façon de gagner qui est meilleure que la tienne, c'est un peu normal de t'adapter aussi. Là, je les blâme pas.
Ouais, mais avant, justement, le Joga Bonito, c'était les Brésiliens et ils enfonçaient tout le monde, quoi.
Enfin, oui, ils enfonçaient tout le monde jusqu'à ce qu'ils prennent 7-1 contre l'Allemagne et qu'ils se rendent compte qu'il fallait changer quelque chose.
Ouais, mais du coup,
parce que
changer leur identité.
Ouais, mais tu. Oui, mais t'es obligé parce qu'au bout d'un moment, tu deviens anachronique aussi.
Après, il faut évoluer à un moment donné, c'est sûr. Si t'as une formule qui marche pas, tu vas pas t'entêter à rester dans cette même formule. Maintenant, dire
qui marche pas en étant 4 fois champion du monde.
Ah oui, d'accord.
Mais il y a combien de temps?
Oui, c'est sûr. Et est-ce que ça, après, il y a des choses qu'on peut toucher, d'autres qu'on peut ne pas toucher. Je suis plutôt d'accord avec vous sur le côté écusson de club, maillot de foot, etc. Pour moi, ça devrait rester quelque chose de classique et qu'on retrouve un peu tous les ans pareil, même si tu peux apporter quelques petites touches de modernité, mais jamais sans tout révolutionner l'ensemble. Maintenant, après, il y a des choses sur lesquelles on est quand même, c'est quand même bien mieux qu'avant. Quand même, faut rester lucide sur le truc.
De quel côté, dans quel sens, Nick, c'est bien mieux qu'avant? Tu trouves que tu préfères le foot d'aujourd'hui que tout le monde joue de la même manière?
Alors,
pas rêver du tout.
Et un peu.
Contrairement à celui d'avant où il y avait des surprises par rapport à la nation.
Eh ben, figure-toi, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dirait des vieux réactes ce débat. Rappelez-vous le foot des débuts des années 2000, mais c'était horrible.
C'est vrai.
Et les années 90, kiff. Hein. Alors, il y a des joueurs que j'adorais à l'époque. Enfin, c'était incroyable. J'ai des souvenirs de gosses qui sont incroyables. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait? Il se passait rien. C'était du catenaccio. C'était tous derrière et puis en contre.
Bah, l'Italie.
Des matchs 1-0. Non, mais quelle horreur. Non, mais
tu te souviens de la Ligue 1 de cette époque-là?
La Ligue 1, mais c'était regardable. T'avais des coachs qui disaient, nous, on va essayer de gagner, de garder le point qu'on nous donne au début du match. Non, mais c'était horrible. Aujourd'hui, t'as des équipes qui essayent un peu plus d'être protagonistes ou proactives. Donc, c'est vrai que le foot d'aujourd'hui est peut-être plus intéressant qu'il y a 20 ans. Moi, par contre, dans ce débat de vieux réac qu'on a depuis tout à l'heure,
de comptoir, bien évidemment.
Moi, il y a un point quand même sur lequel j'ai du mal à me faire un avis, c'est sur le stade. Parce que d'un côté, ça me fait mal. Tu vois, l'autre jour, j'ai un pote, il était à Gerland, il m'a envoyé une photo, il a été voir le Loup. Il m'envoie une photo et il me dit ça fait plaisir de revenir à Gerland. Et je lui dis trop bien et tout. Et en fait il me dit mais t'as pas idée de combien l'expérience elle est moins bien qu'au Groupama. Alors déjà qu'un stade s'appelle Groupama, moi ça me trouve le cul, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est horrible, c'est pour moi c'est horrible. Mais le stade, mine de rien, c'est ta maison.
Oui. Attends, il disait que c'est mieux le Groupama par rapport à Gerland.
Ah mais tous les jours.
D'accord.
Ouais. Tous les jours. Mais bien évidemment, mais il suffit d'aller voir un match.
C'est vrai.
Mais il n'y a pas idée. Mais sinon, l'OL n'aurait pas bougé.
Ah non, là, de toute façon, il y avait une histoire de gros argent
C'est peut-être aussi la faute des politiques qui empêchent de faire des réformes, de retaper les stades. Il suffit de voir le PSG avec le Parc des Princes, combien c'est compliqué.
Qui va rester au Parc des Princes, au final.
C'est pas gagné. Donc moi j'ai vraiment sur changer de stade ou garder son stade coûte que coûte, j'ai du mal à me faire une idée quand même.
Moi je suis plus dans l'idée de garder le stade. Alors après ça dépend de ta position aussi, c'est forcément
toi ton stade c'est l'abbé des champs.
Il y a encore des gens autour du terrain qui regardent
arrête, c'est fini ce temps-là. Non, mais c'est oui, mais alors ça alors
la OK d'accord.
OK. les gars, ok, pas de souci, vous pouvez me chambrer autant que vous voulez.
Non, mais, j'aime ce foot-là en même temps.
Il n'empêche qu'on reste un stade qui reste un stade qui reste très proche du terrain.
Attends qu'on parle du loser du moment, tu verras si t'aimes toujours le foot de la JOC.
Non, j'ai pas dit le foot, j'ai dit le stade et l'ambiance. Les vraies ambiances de foot.
Voilà, l'ambiance est incroyable, on peut le dire, depuis deux ou trois saisons. Je veux dire, on est très proche du terrain là-bas aussi, donc ça permet une meilleure visibilité.
Et je veux dire, vous êtes 10 en tribune, c'est sûr.
Non, c'est pas vrai, le stade, il fait guichet fermé depuis le début. Plus de deux saisons, là, de quoi tu parles? Trouver une place, ça se revend, marché noir, s'il te plaît.
Bah oui, avec 10 000 places, oui.
Bah non, il y a un peu plus quand même. Ah bon. Mais pour le coup, non, je trouve que l'ambiance serait pas la même dans un immense, enfin, même dans un stade à la taille de la ville, mais je veux dire, dans un qui a pas d'âme.
Tu fais des très grands gestes de bras qu'on voit pas, mais c'est un très grand stade.
Autant je suis d'accord avec toi sur il n'y a pas d'âme, mais est-ce que l'expérience supporter est pas meilleure dans un stade ultra moderne, avec un meilleur éclairage, avec une meilleure sonorité, avec une meilleure connectivité?
Je suis pas sûr que ça compense.
Parce que le public a vraiment sa place dans ces grands stades.
Mais tous les jours.
Est-ce qu'il a vraiment sa place? Parce que oui, en tant que spectateur, d'accord, mais en tant que supporter qui met l'ambiance, qui est le.
Ouais, mais aujourd'hui, au Groupama, t'as de l'ambiance quand même.
Je regarde
le stade de l'Atlético Madrid, là, comment il s'appelle?
J'ai perdu le nom.
Bon, avant, c'est le Vicente Calderón, ambiance de ouf, la meilleure ambiance d'Espagne avec Bilbao. Aujourd'hui, ils sont Wanda Metropolitano, voilà, ça me revient. Toujours meilleure ambiance d'Espagne. Parce que, mine de rien, le public, il s'habitue à une nouvelle maison. Mais comme toi, quand tu déménages, tu quittes la maison dans laquelle tu as grandi, ça te fait mal. Mais au final, la nouvelle maison dans laquelle tu emménages, c'est ta nouvelle maison et tu finis par y être bien. Bah, au final, pour moi, le stade, c'est un peu pareil.
Oui, vous êtes parti là-dessus, c'est plutôt. Ouais, mais oui, je suis plutôt d'accord.
Non, ils ont les.
Si on... mais tu sacrifies un peu ta tradition aussi.
Non, mais peut-être. Mais tu vois, ils ont pris le parti, en tout cas. Je te parle à Auxerre, parce que voilà, je suis le club, mais ils ont pris le parti plutôt d'agrandir les tribunes, c'est-à-dire de faire des travaux pour agrandir le stade, en rachetant des terrains qui sont jouxtés au stade.
Ça ne vaut rien, Auxerre.
Le stade leur appartient aussi, ça, c'est un gros détail quand même. Mais du coup, pour agrandir effectivement le stade, augmenter le nombre de places, plutôt que de se dire on va construire un nouveau stade.
Mais est-ce que ce serait choquant, par exemple, de voir Saint-Etienne partir de Geoffroy Guichard?
Je pense, ouais.
Pour l'ailleurs.
Je pense
partir du Chaudron.
Au même titre que Lens quitte en Bollard. Je pense que.
Peut-être qu'un jour ils seront obligés.
Je pense qu'ils feront tout pour pas le quitter. Alors après, t'as des cas un peu particuliers. Je te prends Arsenal avec Highbury, bien sûr qu'ils étaient obligés de partir au vu de la grandeur de l'équipe. Mais Highbury était incroyable et je suis vraiment dépité qu'ils aient détruit en tout cas le stade.
Ils l'ont pas détruit, ils ont fait des apparts. Et d'ailleurs, c'est super.
Ils ont fait des apparts. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais je veux dire,
t'as pas encore acheté.
Non, j'ai pas encore acheté.
Franchement, ça donne envie d'emménager. C'est magnifique.
Ouais. Ouais. Mais pour le coup, effectivement, là, dans ce cas-là, t'es obligé de partir pour assumer ta dimension. Mais là, pour le coup, sur la plupart des clubs comme ça, un peu familiaux, je veux dire, qu'on voit depuis des années, je veux dire, c'est, pour moi, tu perds quelque chose.
En tout cas, la question qui était, je ne l'ai plus.
La tradition, c'est bien, mais est-ce que la modernité, c'est mieux?
Voilà, est-ce qu'on répond à ça? Je ne sais pas trop.
Non,
après,
comme d'hab, on ne répond à pas grand-chose.
En fait.
Genre, on est là pour répondre aux questions.
On donne des outils, mais voilà. Ce que vous voulez.
Et si on voulait répondre à des questions, on n'inviterait pas Caps.
Je ne suis pas là pour ça, moi.
Et puis, on va passer de la musique, pour la peine.
Voilà. Oh non.
Et on va repasser notre deuxième artiste de la région, Clear, de Belleville, cette fois, avec Drop Sunrise.
Calade, ma radio.
Calade, ma radio, sur le 100.9, sur internet, de partout. La dernière partie déjà, et on va parler d'un événement
américain et
local, parce qu'on est lié. On va parler des New York Knicks et on va d'abord parler de ça.
Je me teins les cheveux en rose. Allez, je me teins les cheveux en rose si les Knicks vont en finale.
En finale? Attends, ouais. Finale de quoi? Finale NBA?
Finale NBA.
Ok.
Mince, s'il n'y avait pas eu la dernière phrase, j'aurais dit bah oui, en finale de Coupe du Monde ou de Euroleague.
Eh oui, mais tu aurais pu aller plus loin encore à dire de gagner globalement le tout et puis.
Ah non, mais j'y croyais pas une seconde.
Voilà, donc on va parler des Knicks et la belle histoire de ce soir qui voit la vie en rose. Mais tout n'a pas été tout rose pour les Knicks ces derniers temps, voire ces dernières décennies. On arrête les jeux de mots ici, Caps, je te sens perdu. Mais
il sait qu'on parle de basket.
Il sait qu'on parle de basket. Mais
oui,
on parle
oui,
de
Knicks.
Voilà, donc les Knicks, on va parler d'eux ce soir. Alors, les Knicks, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est une des vieilles franchises de l'NBA.
Bon, vas-y.
qu'ils ont fondé en, qui a été fondé en 46 à la création de la BBA, qui trois ans plus tard deviendra la NBA avec la fusion de la BBA et de la NBL. Voilà, et depuis ils sont là présents avec toujours le même logo, toujours les mêmes couleurs, pas les mêmes joueurs, Caps, t'imagines bien.
Ah bon?
Mais voilà, en tout cas, les débuts ont été un peu difficiles en NBA pendant plus de 15 ans, même 17 ans. Et c'est dans les années 70, où en 70 et 73, ils gagnent leurs deux et seuls titres NBA de leur histoire. Depuis, c'est Kochi, Nada, Walou.
C'est un coup monté.
Pour les Knicks.
C'est un coup monté.
Mais il a quand même une belle histoire, parce qu'il y a, quand même voilà, plusieurs airs, on va dire, avec l'air... Wild Frazier, pour donner des noms comme ça. Il y a eu Patrick Ewing dans les années 90 qui a marqué l'histoire des Knicks, qui est le meilleur scoreur de la franchise. Et puis arrive 2010, Caps. Et en 2010,
Carmelo Anthony,
voilà. Carmelo Anthony qui débarque bien entouré à l'époque, hein, avec Amar'e Stoudemire, Chauncey Billups et compagnie, J.R. Smith que j'adore.
Et qu'est-ce que ça a donné?
Et ça a donné pas grand chose.
Voilà.
C'est ça va, problème.
C'est un complot.
C'est l'histoire des Knicks.
C'est l'histoire des Knicks. Et l'histoire est en train de s'écrire différemment. La belle transition là en ce moment, avec en effet, donc pour refaire le palmarès rapide parce qu'il est petit, deux champions NBA 70-73. Ils sont vainqueurs de la NBA Cup, qui est aujourd'hui la compétition la plus inutile de la NBA en 2020.
Oui, mais c'est un titre quand même.
C'est un titre quand même.
C'est quoi cette histoire là?
La NBA Cup, ça fait 3-4 ans qu'il y a la NBA Cup.
J'en ai même pas entendu parler.
Voilà, ça ne sert à rien.
C'est quoi?
C'est une compétition pendant la saison régulière. Pour
l'équivalent de la Ligue des Nations, un truc comme ça. Ils ont dit on va se remettre un truc histoire de faire un peu de
sous. La Coupe Intertoto, tu vois.
En fait,
ils laissent la Coupe Intertoto.
Ils prennent les équipes qui ne vont pas en play-off et ils leur font un mini tournoi pour voir qui...
Tout le monde joue, et puis souvent, c'est une équipe un peu en bois qui gagne. Voilà, ils sont contents.
C'est nul.
Voilà. Mais en tout cas, cette année, c'est l'événement. Tu voulais peut-être en dire quelques mots, Alex?
Ils ne sont pas arrivés en finale de NBA Cup, alors j'avais raison.
Ils sont en finale NBA, et avec la manière, en finale de conférence, parce qu'on rappelle que ça se passe en deux conférences, Ouest et Est. Ils sont allés jusqu'au bout de l'Est. Ils ont gagné la conférence Est face aux Cleveland Cavaliers.
Quelle volée.
Qui se sont sabordés.
Quelle volée. Comme on dit, c'est parce qu'on gagne en 4 victoires.
En vrai, ils ont fait un 4-0 contre les Cavs, mais c'est au premier match à New York. Les Cavs étaient loin devant et les Knicks ont fait un super dernier carton. Et les Cavs ont fait un carton dégueulasse.
Bah, ils ont remonté 26 points.
Ouais, 20,
ils ont remonté 26 points, 28 points en quelques minutes. Hein, c'est
incroyable.
Les Cavs, ils ont jeté le match à la poubelle. Les Knicks ont fait, pour le coup, respect, ils ont eu un mental, voilà, ils n'ont pas lâché.
Ouais, oui.
Et en fait, derrière, les Cavs, ils sont effondrés.
Bah, je pense que ça, c'est ça qui a dû les défoncer complètement. Parce qu'en plus.
Ils étaient à ça de prendre un avantage dingue. Parce que, mine de rien, tu confirmeras que gagner ton premier match à l'extérieur.
Ah oui, tu reprends l'avantage bien. De terrain. Et puis, oui, c'est. Et puis, en plus, ils sortaient d'un match d'une série en 7 matchs juste avant. Donc, ils étaient plutôt à plat quand même, hein, les Cavs.
On en parle de la dernière victoire, 130-94, je crois.
Voilà.
Non, mais les Cavs, ils n'étaient plus.
Non, mais c'est
plus
les magistrats.
Oui, non, mais ils n'avaient plus envie d'être là, les gars. Ouais, ils étaient en vacances.
Incroyable.
Mais
incroyable.
Ouais. Et pour la belle histoire, dans la belle histoire.
Et oui, parce qu'il y a toujours une belle histoire dans la belle histoire chez les Ricains.
Exactement. Comment on appelle ça? On s'en fout. American Dream.
La storytelling.
Et voilà, il y a un joueur, et c'est le genre de joueur que j'aime bien, parce que c'est Jalen Brunson, qui est le genre sur qui on ne mise rien. Voilà. Il a débuté à Dallas avec les Mavs qui aujourd'hui sont au fond du fait tout. Il était vu comme un joueur trop petit, pas charismatique, avec aucun potentiel de superstar, en soi un joueur lambda. Ce qui était un peu le cas à ce moment-là. Puis après, il débarque aux Knicks. Et depuis son arrivée, il y a 4 qualifs en play-off d'affilée, 2 finales de suite. Donc il était déjà l'année dernière de conférence, attention. Et une finale NBA qui arrive là. Voilà, avec une possibilité pour lui de rentrer définitivement dans l'histoire des New York Knicks et de l'NBA avec une performance qui lui tend les bras.
Est-ce qu'on peut parler de l'air?
De l'air Jalen Brunson, mais bien entendu. Parce que là, il est aujourd'hui, en étant en finale NBA, il est à la même table que les noms qu'on a donnés avant, hein, Wild Frazier, Patrick Ewing, qui sont les seuls à être arrivés en finale comme lui. Donc voilà, derrière, il peut aller plus loin que ça en étant champion NBA depuis 73, du coup.
Là, tout en sachant que la finale, on est soit contre le Thunder, soit contre San Antonio Spurs.
Soit contre Wemby.
Ouais.
Et là, il me semble qu'on a pas mal au niveau des pronostics. J'avais dit, les Spurs sont peut-être en champion. Donc, c'est toujours en liste. Enfin bon, voilà. Après, c'est compliqué pour Wemby, là. Il y a 3-2 ouais. pour Thunder pour faire un petit truc actualité, mais c'est possible. C'est pas encore terminé pour lui.
Voilà. Ça va être compliqué quand même.
La question, ouais. est-ce que les Knicks ont une chance en finale? Aussi bien l'un contre l'autre, hein.
Je vais pas surenchérir.
Donc, on a
surenchéri parce que généralement, ça leur porte chance.
Il y a quelque chose qu'on n'oubliera pas, c'est les cheveux roses. Voilà.
Ouais.
Après. Ça dépendra de la fin de cette finale de l'Ouest. Hein. C'est que si c'est en 7 matchs, ils peuvent, peu importe celui qui en sort, les Spurs ou les Thunder, peuvent ressortir rincés parce que là, la série de Spurs-Thunder, elle est quand même énormément jouée. Et voilà. Donc ça peut se jouer là-dessus sur une finale NBA.
Sur de la fatigue, ouais.
Mais ça semble compliqué pour les Knicks, de mon point de vue. Voilà. Après, voilà.
Et pour me voir avec les cheveux roses, ce sera sur l'Instagram Superflu Radio.
Voilà, on a une date de ça, on a un rendez-vous qui nous attend.
Bientôt.
Okay.
Voilà.
Le fil rouge de la fin de saison.
Pour probablement la dernière de la saison, en fait.
Allez, vendu.
Voilà pour l'histoire du jour. Il y a peut-être des choses à rajouter, peut-être. Moi, j'aimerais bien voir les Knicks gagner. C'est vrai que c'est une équipe que j'ai pas dans mon cœur à ce point-là, mais que j'aime bien. Voilà.
Ce serait un petit vent de fraîcheur sur la NBA.
Non,
moi, j'ai envie de voir paumer. En plus, parce que notre président des États-Unis adoré songe à aller les encourager pendant leur match. Moi, je trouve ça déplorable.
Ouais, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est s'ils gagnent, s'ils iront à la Maison-Blanche le voir, comme ont pu faire ceux de la NHL qui n'y sont pas allés. Voilà, il y a ces choses-là à jouer derrière. Voilà, les Knicks, on a envie d'être derrière eux quand même, sauf si Wemby va en finale. Ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu es d'accord, Cap?
Non, parce que les Knicks quand même, parce que je suis pas sûr qu'ils puissent refaire la même perf l'année prochaine. Donc, Wemby, il y a de grandes chances qu'il la fasse. Je me dis que Wemby, il a encore un peu de temps.
Wemby, là, ok. Ouais, ça serait, là, il rentre dans un historique. Wemby, s'il est champion cette année, je peux t'annoncer que. Ouais.
Incroyable.
Là, ça serait énorme, quand même. Voilà pour la belle histoire.
Juste une question, le MVP de la saison régulière, finalement, ça a été qui?
C'est Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien, qui est en back-to-back, donc qui était déjà MVP l'année dernière, et qui est champion NBA de l'année dernière avec le Thunder, et qui est toujours en lice pour avoir aussi un deuxième titre d'affilée NBA. Donc il le mérite. Voilà.
Incroyable.
La dernière partie, jingle.
C'est moi qui reprends.
Reprends. J'ai donné des fausses indications.
Non, mais.
Ils se sont pas vus.
Ils sont fans de frappe, c'est incroyable.
Visiblement, il y en a un qui n'a pas écouté le briefing du tout. Tout va bien. Ça y est, les listes pour la Coupe du Monde de football sont tombées, quasiment toutes, hein, en tout cas celles des grandes sélections. Et on s'est posé une question qui nous ressemble bien, c'est on a envie que qui soit ridicule. Et donc, voilà, je vous répète, dans les grandes équipes, il y a. Qui participent à la Coupe du Monde dans les favoris, Mexique, Norvège, Brésil, Maroc, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Uruguay, France, Argentine, Portugal, Angleterre. En même temps, il y a la moitié du monde qui y joue cette année.
Dans le groupe Y, qui...
Sauf l'Italie, bien évidemment, l'Italie qui gagnera pas. Donc, qui est-ce que vous avez envie de voir être ridicule cette année à la Coupe du Monde?
Oui, non. Caps.
Oh, tu commences par moi. Moi je vais faire dans le classique. Non, arrête.
Bah si, jingle.
Non, mais c'est pas vrai, c'est insupportable. Il agit d'une jingle,
T'étais trop parti sérieux là.
Ah bon, pardon. Ouais. Moi je vais rester dans le classique. Hein, nos voisins belges, hein, on aime bien les détester. Hein, de toute façon, on va rester là-dessus. Hein. Ça me semble pas mal. Hein,
C'est le voisin que tu détestes le plus?
Non.
Ah, parce qu'il y a les Allemands quand même.
Il y a les. Pareil. C'est deux salles, deux ans. Bref. Non, je déteste pas à ce point-là. Mais pour le coup, dans la Belgique, parce que. Alors, je vais donner quelques noms comme ça à la volée, vous ferez bien ce que vous en ferez. Rudy Garcia.
Très bien,
déjà. En fait, tu t'arrêtes là, ça suffit.
Rudy Garcia,
Rudy
déjà.
Rudy Garcia, sélectionneur belge, on a envie qu'il perde, c'est tout.
Voilà, c'est juste incroyable.
Pourquoi même si moi, ce que j'ai choisi, je trouve que le sélectionneur est encore plus détestable.
Mais vas-y, on en parlera juste après, ouais. Puis la sélection, il faut regarder. La liste de la sélection, hein, quand même, quand on voit que Axel Witsel, 37 ans, est encore dans la liste. On peut parler de Romelu Lukaku, 33 ans. Alors bon, ça reste encore un bon avançante, mais bon, 33 ans quand même, ça commence à faire. Kevin De Bruyne, bon, il y a quelques années au compteur aussi. Je veux dire, l'équipe me fait pas du tout rêver. Il y a quelques petits noms qui me ressortent. Leandro Trossard, parce que Arsenal, bien évidemment. Mais c'est à peu près tout.
Non.
Non, quoi, allez, Thibaut Courtois, allez, admettons.
Oui. Mais, admettons, oui. Enfin,
ouais, non, mais voilà. Non, mais je veux
attends,
dire,
on parle du mec qui se tape la femme de son capitaine.
Oui.
Ah oui, donc on a envie qu'il perde. Du mec qui avait le seum parce qu'il...
Ouais, le fameux. Donc non, je vois bien la Belgique se ridiculiser parce qu'il y a rien, il me paraît rien.
La question, c'est pas qui on voit, c'est qui on a envie.
Ouais, alors j'ai bien envie, ouais.
Ah, t'as envie de les voir souffrir.
Ouais, un petit peu, ouais.
Est-ce qu'ils iront vraiment loin, ces Belges?
Non, je pense pas. Honnêtement, la génération dorée, c'est fini. La fameuse génération donnée qui a rien donné.
C'est là où ton argumentaire s'arrête, en fait. C'est que, ils font plus rêver personne.
Je voulais faire sensation en disant, ils sortiront pas de leur groupe, mais au vu de leur groupe.
Non, ils sortent pas quand même.
Ils sortent du groupe.
C'est sûr, ils sortent du groupe. Enfin, s'ils sortent pas du groupe, c'est vraiment une.
Ils ont qui déjà dans leur groupe?
Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande.
Ouais,
c'est. Que des pays qui jouent pas au foot. À l'Égypte.
Ah, l'Iran, ça joue un peu au foot. Et l'Égypte. Alors,
l'Égypte, c'est costaud quand même. Hein.
J'ai fait un concours de pronos avec des potes. Moi, j'ai mis l'Iran devant l'Égypte. Ah non, mais l'Iran aux États-Unis, ils vont être surmotivés. Et l'Iran, ils n'ont pas Mohamed Salah, mais le reste de l'équipe, ça tient la route. Hein.
Ok.
Voilà. Ouais. J'ai balancé un pronos.
Très bien. Allez, bah continue.
Moi, c'est les Pays-Bas.
L'Espagne.
Bien évidemment que non. L'Espagne va gagner, je ne sais pas pourquoi quelqu'un a envie de les voir perdre. J'ai envie de voir les Pays-Bas se prendre une gaufre. Parce que franchement, j'ai regardé la liste et il n'y a pas Xavi Simons qui serait le capitaine des têtes de nœuds, parce que lui, c'est vraiment un roi des têtes de nœuds. Il y a une liste, mais des têtes de nœuds, mais à plus en pouvoir. Ils ont un melon tous autant que les autres, qui est incroyable, alors que franchement, ils ont tous un niveau râlé-pâquerette. Mais alors, le sélectionneur Ronald Koeman, lui, s'il y avait une religion des têtes de nœuds, ce serait le dieu numéro 1, le dieu numéro 2 et le dieu numéro 3.
Alors, définition de la tête de nœuds.
Non, mais je pense qu'on comprenne.
Ils
sont tous aussi odieux les uns que les autres. Ils sont tous aussi antipathiques, aussi imbus de leur personne. Non, mais franchement, j'ai toujours adoré les sélections des Pays-Bas. Des joueurs comme Dennis Bergkamp m'ont fait rêver. Van Nistelrooy m'a fait rêver. Alors que pourtant, il faisait pas bander, mais il était incroyable. Mais même les anciens, les Johan Cruyff, les Neskens et compagnie, les Colbataf du foot, j'adore.
Mais ils ont tous des prénoms qu'on ne peut pas prononcer. Si oui, le reste, c'est tout de la.
Non, mais ils sont odieux. Cette équipe, ils sont détestables. Franchement, il n'y a rien qui va.
Dis ça parce que tu es énervé.
Mais non, mais j'aime bien d'habitude les Pays-Bas, mais là, c'est honteux, franchement. Tu sais quoi? Ils me font limite penser à l'équipe de France de 2010.
Ah, il ne pousse pas quand
2010,
même.
2010 hein. Non, mais au niveau. À 2010, tu te souviens d'Aïsna, l'histoire du bus, là, le
ouais, devenir. Ouais, bien sûr,
voilà. Il ne pousse pas quand même.
Est-ce qu'ils vont faire un
moi, je les trouve aussi sympathiques que cette équipe-là. Donc rien que pour ça, j'ai envie de les voir perdre. Mais ils vont sortir de leur groupe quand même, mais ce serait drôle qu'ils. Voilà. Et alors, si Curaçao, qui est une ancienne colonie, pouvait sortir de la poule, ce qui me semble improbable, et les US et pas les Pays-Bas, je rigolerais pendant une semaine.
Parce que j'ai fait un point sur Curaçao. Là, pour le coup, on est. Les trois quarts, c'est des anciens de la. Des Pays-Bas qui n'ont jamais eu de sélection, qui espéraient en tout cas une sélection en équipe des Pays-Bas. Et ça pourrait être une jolie revanche pour la plupart d'entre eux. Donc ça pourrait être sympa à voir.
Ok. Alors, on pourrait.
Bref. Oui, bah vas-y, on te lance.
Je vais mettre un
toi,
pour la peine.
Non, mais toujours plus.
Non, mais c'est
ça y est, le mec, il a un bouton, il s'en sert
tu
que
pour. Tu parles de boulard, mais alors lui, c'est encore pire. Hein.
Mais quand t'auras les manettes, tu sauras que
c'est ça. C'est vrai, c'est quand que tu prends la technique?
Un jour.
On pourrait dire l'Argentine parce qu'ils ont battu la France en finale. On pourrait dire l'Angleterre parce que la grande sympathie que j'ai pour l'Angleterre.
Ouais, mais Tuchel, il a fait des choix qui me font rire, alors j'ai envie de voir gagner.
On pourrait dire Espagne pour t'emmerder, mais je vais dire le Portugal. Voilà,
parce que 2016, monsieur.
2016, si tu veux, on se rappelle de Gignac quand même sur le poteau. Mais bon, après.
Ils ont gagné avec un but d'Eder en finale.
Ouais, mais attends, si t'as le seum pour 2016, t'as pas plus le seum pour 2024. remporte la dernière Coupe du Monde 2022.
tu parles de celle qu'on a perdue contre l'Argentine, je me souviens plus. je me souviens plus de l'année. Ouais.
T'as pas plus envie de voir perdre l'Argentine alors à ce compte-là.
Mais si, j'aurais pu prendre l'Argentine, mais c'est pas.
Ouais, mais tu vois,
non, c'est la dernière de Messi.
Je les trouve pas sympas, moi, l'Argentine.
Non, mais ça, ils ont toujours été un peu vicelards, hein, quand même. Les non, faut dire ce qu'il y a, hein, les Otamendi et tout machin, c'est pas des modèles de vertu, hein, pardon, mais.
C'est pas d'eux qu'on parle.
Oui, pardon.
Bon, merci. Et puis tes mots à deux balles, là, tu vas te lire. Hein, alarmant en moins de deux. Bon, le Portugal, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que Cristiano, on l'a suffisamment vu. Et puis, voilà.
On peut dire la même pour
passer
Messi,
autre chose.
Hein. Oui, Messi, on l'a assez vu. Hein.
Oui, mais Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps.
Et justement, moi, si Ronaldo pouvait gagner la Coupe du Monde pour faire la nique à Messi, ça me ferait bien rire.
Ouais, mais
après. Non, mais cherche pas, t'as fait un choix non pertinent.
Non. Et puis, mais tu m'as inspiré tout à l'heure en disant qu'il y avait pas mal de joueurs qui se sont exilés dans ce magnifique championnat qu'est l'Arabie Saoudite. Non, ça me fait pas rêver. Après, voilà, c'est.
Ah ouais, mais tu vois, moi, j'aime bien Diogo Jota, leur goal, qui, je trouve, est vachement surévalué. Sous-évalué. Bernardo Silva, je trouve que pour l'ensemble de sa carrière, il mériterait aussi de soulever une Coupe du Monde. Donc, non, cette équipe du Portugal, j'aime bien. Mais je le dis pas trop fort parce que je préfère voir gagner l'Espagne quand même.
Après, on sait qu'ils iront pas loin, mais après, voilà, c'est.
Bon, je cite que l'Espagne, ça ira pas loin.
Est-ce qu'on se refait un tour de favoris ou on l'a déjà fait ? Non. Allez. Bon. En tout cas, dans les pronostics, le favori, ça part sur l'Espagne ou la France, il me semble quand même.
Oui, dans les grands favoris, il y a l'Espagne ou la France.
Pardon, j'étais parti sur le Cap-Vert, moi.
On est tous aussi d'accord pour dire que les États-Unis, on n'a pas envie de les voir aller loin. On a envie qu'ils aillent pas loin.
Voilà, j'hésitais aussi avec ça.
En fait, voilà.
J'hésitais.
Pour les coulisses de l'émission, on a tous dit en premier les États-Unis, donc on s'est dit qu'on n'allait pas dire les États-Unis, mais ça nous ferait tellement rire que l'Iran aille. Au moins passer un tour et pas les USA. Ah, mais moi ça me ferait rigoler. Mais vraiment, mais tout l'été.
Non, mais même au-delà ouais. du conflit États-Unis-Iran, je veux dire.
Ouais, c'est important dans un contexte comme ça, c'est important de le souligner.
Non, mais ok, mais sur la complexité pour les supporters d'aller voir un match aux États-Unis, je veux dire, rien que pour ça, le prix des places, l'horaire des matchs.
Inabordable.
Je veux dire, voilà, c'est concrètement pour ça, je voudrais les voir perdre.
Et puis au-delà de. Oui, alors après, les 26 mecs qui ont été convoqués, ils n'ont pas tous voté pour M. Bush. Monsieur Trump.
Ouais,
ils sont pas tous d'accord avec lui. D'ailleurs, ils sont pas responsables de ses décisions. Mais ouais, c'est vrai que rien que pour le symbole. Et le Canada et le Mexique qui sortiraient de leur poule et pas les USA, ça me ferait bien rigoler.
Oui, le Mexique. Ouais. C'est possible pour le Mexique.
Alors, le Mexique, je les vois sortir de leur poule parce que bon, le Mexique, ça reste quand même une grosse équipe. Mais
le Canada, ça peut.
Ça vaut pas un clou.
Ils ont les Suisses. Il y a la Bosnie et les Suisses qui peuvent passer devant quand même. Hein.
C'est plus trop ce que c'était la Suisse. Hein.
Ils ont toujours réussi à sortir. Il y a encore Shaqiri ou pas ? J'sais pas.
Il y a toujours Shaqiri.
Ah là là.
Qui a fait une saison incroyable avec Bâle.
Dans le championnat suisse.
Ouais.
Il y a Mbolo, il y a tout ça.
D'ailleurs, grosse surprise dans le championnat suisse.
Oui, le FC Thun.
Le FC Thun qui avait jamais gagné le championnat, qui gagne.
Et puis surtout qui était promu cette saison et qui a pris le championnat.
C'est dire le niveau du championnat où un promu a réussi à gagner. Non, mais c'est n'importe
incroyable.
Quoi.
Incroyable.
Voilà pour nos pronostics de ceux qu'on veut voir se planter. Pour la Coupe du Monde qui arrive dans combien 40 jours combien on n'est pas
coup d'envoi le 11 juin.
On est pas assez vite. Levez-vous à 4h du matin pour voir des purges.
Non,
alors, on a sur la dernière partie qui est pour toi, Caps, après un jingle.
Et on va parler de nos losers. Hein, nos losers de la semaine.
Le vote.
Ouais, le vote.
Oh, j'ai encore eu du mal à faire mon choix.
Ah non, moi mon choix était tout trouvé. Je commence ?
Allez, vas-y.
Allez, parce que.
Donne-toi la parole.
Allez, vas-y. Je m'auto-donne la parole. On va parler
de. T'auto-flagellé.
Exactement, c'est horrible. On va parler de la JOCR, mon club de cœur, qui a acquis un maintien lors de la dernière journée, un maintien inespéré, bref. L'équipe qui avait fait, tout le club qui avait fait l'union sacrée, en tout cas, pour le maintien, s'est retombé un peu dans ses travers à la suite de ce maintien en Ligue 1, avec des problèmes problèmes en interne. Entre le coach Christophe Pélissier et le directeur sportif David Ventier, qui ne peuvent plus se voir en peinture, hein, tellement qu'une décision devait être prise, en tout cas par le propriétaire, le James Ozou.
C'est-à-dire virer un des deux.
Exactement, c'est un peu l'objectif. Et c'est Ventier, le directeur sportif, qui a été choisi. Et ils ont viré le coach, qui leur a obtenu le maintien avec une équipe en bois, ce qui est quand même déjà assez...
Équipe en bois qui a été recrutée par...
Le directeur sportif, absolument. Donc c'est quand même incroyable, je trouve le pied de nez un peu cocasse. Bon, à noter qu'il y a eu quand même...
Donc on sait que vous descendez l'année prochaine.
Oui, c'est un peu ça. Alors attends, parce que c'est pas fini, parce que c'est là que c'est drôle. Je pense qu'il y a le côté économique, parce qu'on a réussi à vendre des jeunes aux alentours d'une vingtaine de millions d'euros, ce qui a fait que ça a pesé peut-être dans la balance du directeur sportif. Des recrues à pas cher, donc peut-être que, bon, finalement on a réussi à avoir le maintien quand même. Est-ce que c'était positif pour le propriétaire?
J'en sais rien. Il y avait trois équipes qui étaient plus nulles que vous. Absolument. Pas parce que vous étiez meilleur.
Mais absolument. Mais c'est clairement ça. Mais à noter quand même qu'il y a eu quand même eu des manifestations, des pétitions de la part des supporters auxerrois pour en tout cas plaider en la faveur du coach Pélissier et du départ de David Ventier. Donc bon, les choses sont actées, le coach Pélissier a été limogé, mais retournement de situation dans la semaine où il y a le président Baptiste Malherbe, qui est le seul dépositaire de la signature du propriétaire à l'heure actuelle, parce qu'il est bloqué en Chine pour des problèmes de visa.
Ça c'est pas la loose.
Ça c'est vraiment la loose. Il a pas pu.
Le mec, il est millionnaire et il a des problèmes de visa.
C'est incroyable. Mais bon, bref, ça c'est pour un autre débat. Et pour l'instant, il a pas ratifié le renvoi du coach officiellement. Il va tenter d'aller en tout cas en Chine, pour aller faire changer d'avis au propriétaire. Sauf que de l'autre côté, on a David Ventier, qui le directeur sportif, qui a déjà signé sur le papier le nouveau coach, qui serait Will Steele, d'après les infos de l'équipe. Et donc, pour le coup, si ça risque d'être un sacré bordel en début de saison.
Parce que vous aurez deux coachs.
Exactement, on a tout compris. Il n'y a absolument rien qui va, c'est un bordel monstrueux.
C'est ça là, vous.
Non, mais c'est un bordel.
Ou alors, vous allez payer Will Steele pour casser son contrat.
Exactement.
Mais ça me ferait tellement rire.
Alors que le budget, on connaît le budget quand même de la GIA qui est.
Ah, vous avez un budget ?
Ouais, qui est très très en bas de la liste des clubs de Ligue 1.
Ah, bah oui.
Et donc déjà qu'on a des moyens limités pour recruter, si en plus de ça on doit payer peut-être 1 million pour dédommager Will Steele de pas l'avoir pris, je veux dire ça risque, enfin en tout cas ça annonce pas un début de saison serein, en tout cas pour la suite. Donc pour moi c'est mon loser de la semaine.
Alex.
Alors moi tu vas pouvoir crier parce que je vais parler de la Juve, l'équipe que tu aimes tant. J'ai failli faire un panier avec le Milan et la Juve qui ne sont pas ni l'un ni l'autre en Ligue des Champions l'année prochaine.
C'est vrai.
Pour la première fois depuis quelle année d'après vous ?
Longtemps.
Très longtemps.
Ah, très très longtemps.
50 ? Non. Plus ?
À 1992.
Ah oui.
Ah
oui.
Oui.
Depuis 1992.
Donc je sais rien. La Juve c'est tout tellement fort.
Donc moi en 92, j'étais personnellement au CP.
J'avais 2 ans.
Ouais. Voilà. J'en avais 3.
Donc depuis 92, le Milan et la Juve sont donc depuis 93, Milan et la Juve sont tout l'un ou l'autre en Ligue des Champions. C'est de l'année prochaine pas un seul, avec des budgets qui sont faramineux. Koum est passé devant eux.
Oui.
Donc
ça pourrait être une belle histoire.
Mais en fait, Milan et la Juve ne sont pas mon loser du moment, bien qu'ils soient ridicules, la risée de l'Italie. Mon loser du moment, c'est un club mongol.
Ah.
J'ai trouvé, je crois, le pire club de toutes les premières divisions du monde. Le FC Ulaangom City. Excusez-moi, mon mongol est... J'ai pas fait mongol en LV2.
C'est bizarre, c'est étonnant. Hein.
Donc c'est un club de D1 mongol qui a un bilan calamiteux de 14 matchs, 14 défaites, 97 buts encaissés. Ça fait une moyenne de 7 buts encaissés par match. Je crois que j'ai jamais vu une stat pareille dans une première division.
Ils ont fait jouer les poussins ?
Mais en fait, ils ont fait jouer ce qu'ils voulaient, quoi. Mais je suis à peu près sûr que toi, t'y vas, t'es titulaire. Et en fait, là où c'est incroyable, c'est les losers de ouf parce que ils sont pas derniers du championnat.
Oh non.
Ils sont pas derniers parce qu'en fait, il y a une équipe qui a déposé forfait, donc ils vont jouer un barrage pour pas descendre. Il y a aucune chance qu'ils y descendent pas parce qu'ils ont vraiment, c'est catastrophique cette année. Une équipe de D2 est capable de les taper, donc je vois pas comment cette équipe va pouvoir se maintenir. Mais voilà, vous saurez qu'en Mongolie, il y a un championnat de première division et il y a une équipe qui se fait marcher dessus tous les week-ends.
Et est-ce que t'as creusé ton sujet? Pourquoi? Est-ce que c'est le recrutement qui avait mal été fait?
Est-ce que j'ai le droit de faire mon loser peut-être?
Non, que dalle.
Non. Ah ouais, non, d'accord.
Non, parce que c'est bon, j'ai trouvé le loser du moment.
Ah ouais.
Alors, j'ai un troisième loser, mais j'en parlerai que si on a encore une minute à la fin.
Il nous en reste 4. Alors, le loser, moi, c'est pas pour rigoler, parce que je vais me la jouer relou, politicien, machin, tout ça.
Ça voilà. Éteignez vos radios.
Éteignez les radios. John Terry, qui a... Ah. John Terry, légende de Chelsea.
Oui, exactement.
Qui a majestueusement bien commenté le tweet d'un certain Rupert Lowe, fondateur du parti nationaliste Restore Britain, comprendre, reconstruire la Grande-Bretagne. Tweet... qui en partie demandait de mettre dehors des gens pas assez anglais ou de couper des allocs de ces mêmes personnes. En soi, des propositions que l'on connaît aussi par chez nous. Il avait déjà approuvé les propos de Monsieur Lowe sur une autre proposition tout autant raciste aussi quelques temps auparavant. Donc en soi, rien d'hasardeux pour ce bon vieux John. Bref, l'extrême droitisation d'ancienne gloire du sport, du foot... La lose, pour moi. Voilà, c'était mon loser.
Ok.
J'étais refroidi. Bon.
Je peux évoquer mon autre loser, j'ai hésité longtemps.
Allez, on t'écoute.
Lance Stroll. Formule 1. Lance Stroll, Formule 1, qui, alors non pas au dernier Grand Prix du Canada, mais au Grand Prix précédent de Miami, a tourné moins vite sur son tour en qualif que le poleman de la GP2.
Oh, ça c'est moche.
Ça c'est honteux quand même.
Ça c'est honteux. Alors, pour remettre dans le contexte, Lance Stroll est en Formule 1 parce que l'écurie appartient à papa.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Donc, si on veut remettre le contexte. Le mec est là parce que son père est le propriétaire de l'équipe et il a tourné moins vite que des voitures d'une catégorie inférieure. Grosso modo, pour faire simple, on lui donne une Ferrari et vous donnez une deux chevaux à Schumacher. Schumacher va plus vite que lui.
Non, mais il est cataclysmique, il faut qu'il arrête.
Non, et puis, alors. À sa décharge, il a une brouette quand même.
Papa, il n'a pas fait une bonne voiture.
Non, papa et New Way ont fait une brouette.
Ah.
Avec Honda. N'oublions pas qu'Honda est grandement responsable.
Avec New Way, ils ont réussi à faire une brouette.
Entre New Way et Honda, ils ont fait une... Ouais, ah, mais vraiment.
Ah, c'est moche.
Ah, je descends plus vite les escaliers sur les fesses que font un tour de circuit. Non, mais voilà, moi, mon loser du moment, vraiment, c'est ce club mongol. Ils m'ont fait rire. Ils prennent 7 buts par match et ils sont en D1. LOL.
Voilà pour les losers. Comment on procède? Je pose la question à chaque fois, hein. Vous vous rendez compte, c'est la cinquième
c'est
fois qu'on
le
fait.
Mien,
à
chaque... C'est le mien.
Comment
c'est
on fait?
C'est le mien. C'est
bon, le tien, c'était aussi, on s'en fiche.
Pardon, tu vas prendre un casque. Hein.
Tu vas prendre un casque, ok, oui.
Moi, franchement, mon club mongol qui prend 7 buts par match, c'est pas le dernier, je trouve ça magistral.
Le club mongol, le fils de, enfin, voilà. Voilà. Le bon vieux John, il vous plaît pas?
Non.
Ouais. John Dexter?
On laisse où il est? Ouais, bon. John David, non, mais oui.
John Terry.
John Terry, oui. Donc John David, c'était autre chose, encore plus calamiteux. C'est voilà.
Non, parce que moi, je t'avoue qu'un footeux qui parle de politique.
Ah, c'est un débat, ça, on pourrait le faire un de ces jours.
Ouais,
qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça, c'est très comptoir, ça.
Mais est-ce qu'on est obligé
de les écouter? Faudrait plus au milieu autour de la table pour
des mecs qui savent à peine lire, est-ce qu'on est vraiment obligé de les écouter?
Mais c'est un petit peu ça. C'est en fait, est-ce qu'ils perdent pas tous leurs repères, ces gars-là? Et du coup,
quel repère tu veux qu'ils perdent? Ils en ont aucun.
Bah, justement. Et voilà, quand tu lâches dans le grand bain de rien.
John
voilà.
Terry, c'est pas le mec qui s'est tapé la femme de son coéquipier aussi? Alors qu'il était capitaine de l'équipe.
Je crois que c'était même son meilleur pote.
Ashley Cole.
Non,
Ashley Cole, oui, c'est ça.
Il n'y avait pas eu aussi Bridge aussi.
Oui, Wainbridge.
Ouais,
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 je crois que c'était son meilleur pote en plus, il me semble.
Non, voilà, un gars d'aplomb quoi.
On va terminer.
Un bon gars.
Donc on vote blanc.
Voilà. On vote blanc. Voilà.
Bon, on vote blanc. On va terminer là-dessus. On vous dit.
Ah, c'est l'anniversaire de Paul Gascoigne, j'y pense.
C'est trop grand bien. Grand
voilà,
bien.
59 ans. Je pensais pas qu'il arriverait aussi loin.
On revient dans 2 semaines, en tout cas. Bonne soirée à vous ou bonne journée selon l'heure que vous l'écoutez. À plus tard. Au revoir.